de Lille 2. Il y dirige en particulier, si je ne me trompe, un Master 2 Sécurité juridique et sécurité dans les systèmes numérisés, qui est au cœur de nos débats. Il a fait de nombreux enseignements, y compris, je crois, à l'étranger, et y rédigé ou dirigé un nombre considérable de publications. Il va nous parler notamment d'un thème essentiel, efficacité administrative et protection des libertés. Les questions seront posées également juste après l'exposé, car Monsieur Lavenu doit rejoindre la gare et le train qui le ramènera à son domicile, enfin à l'université de Lille. Je vous en prie.
Merci Monsieur le Président. Comme on vient de me le dire fort gentiment, je travaille surtout sur la protection des données, la protection des libertés. Et à ce titre, j'adopte la position du Cassandre ou du Caton, légèrement paranoïaque, en estimant que la paranoïa est parfois intéressante pour se protéger des dangers. Et j'ai tendance à voir le mal partout. J'ai écrit un excellent article, même deux, que vous pourrez lire, compte tenu du temps qui m'est imparti, j'aurai naturellement pas le temps d'en parler, et tant qu'à faire, parlons d'autre chose tout en parlant de la même chose. Un certain nombre d'observations que je vais faire par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, notamment. J'ai entendu parler de « privacy by design ». Alors je dirais, en tant que Cassandre et en tant que juriste, que c'est un concept qui, sur le plan juridique, n'existe pas, que c'est un gadget marketing qui permet effectivement d'attirer un certain nombre de gens qui remettront librement ou pas librement leurs données en estimant, on leur a dit, que c'était protégé dès le départ. Deuxième chose qui m'a un petit peu inquiété, non pas choqué, c'est l'évocation du projet de règlement européen 2012-0011, qui est ce règlement qui doit remplacer la directive 94-95 sur la protection des données. On nous a dit des choses fort justes, mais on oublie de dire beaucoup de choses importantes. Cette future directive ou règlement est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que l'ancienne directive disait « Il est interdit de prélever des données personnelles, il est interdit de prélever des données sensibles. » La règle était claire. Dans le nouveau texte, on ne dit pas exactement la même chose. On dit « Les individus, les particuliers, ont le droit de voir leurs données protégées. » Fort bien. On vous a dit ce matin... Si on demande, effectivement, qu'on nous communique les données qu'on a, ce qu'on nous concerne, on vous les donne. Même chose pour les données sensibles. Alors me direz-vous, quelle est la différence ? Juridiquement, elle est considérable. Parce qu'elle renverse le mécanisme de la responsabilité. Et l'avantage pour les grandes sociétés en tout genre, je ne veux pas dire de nom, on ne les connaît pas bien sûr, l'avantage pour ces grandes sociétés, c'est de ne plus avoir à adapter leurs produits, on est d'accord, aux législations des différents États, donc de pouvoir fourguer leur matériel, et si notre individu lambda n'est pas fichu d'aller chercher les différentes indications pour supprimer les données en question, on lui dira « mon vieux, c'est de ta faute ». On applique maintenant le système américain contractuel, en disant « tu n'as pas joué la partie contractuelle qui était prévue et annoncée dans notre projet Google ou autre ». Zut, j'ai pas dit le nom. J'ai dit le nom. Et donc, moi, je ne suis pas responsable de leur utilisation. Toi, c'est ton affaire. On nous a vanté également ce matin Google qui mettait sur le marché des données bien cadrées, bien nettes, bien carrées. Je m'énerve déjà, je vais finir par lancer des tas de trucs après. Donc, Google qui aurait des produits tout à fait exploitables, etc. On a oublié un petit détail. Que s'est-il passé le 12 février 2012 aux États-Unis ? Eh bien, il s'est passé que l'Association des attorneys généraux des États-Unis se sont payés le luxe d'une lettre en disant « Google, ça va pas du tout ». Bon, il va falloir peut-être rentrer un peu dans le rang. Bon. On nous a parlé de l'administration Obama. L'administration Obama et Obama lui-même, en 2012 également, les références étaient un petit peu passées, si j'ose dire, hein, a dit « Mais c'est vachement bien la réglementation européenne. Il faut prendre modèle sur ce qui est fait dans le cadre européen ». On est loin, c'est ça, c'est une forme de révolution en marche. Figurez-vous que les Américains se mettent à dire le modèle européen est très bien, ou précisément au moment où nous nous réveillons, hein, à Bruxelles, en disant ah ben si on revenait en arrière et si on bidouillait notre truc qui permettra aux grandes sociétés de récupérer tout un tas de données. Donc là, il y a quand même un certain nombre de choses qui posent problème. Mais je vous dis, je vois le mal partout. Je suis un adepte du rôle de l'État, du rôle protecteur de l'État, du service public, de l'administration exemplaire. Or, venons-en au moins à certains éléments de ce que je traitais. Le problème des données, des fichiers, etc., de l'interconnexion, on l'a vu, il existe depuis les années 60. Depuis les années 60, on a un phénomène d'attraction-répulsion à l'égard du développement des fichiers, des interconnexions, le mieux d'État, le plus d'État économique, etc., la meilleure gestion, tout ça, tout le monde est d'accord. Puis en même temps, on se met à craindre, on se met à dire, bon, Big Brother... On a sorti Big Brother, on a sorti le Golem, on a sorti des tas de choses en disant les grands voleurs de données. C'est pas aussi grave que ça, mais néanmoins, on se rappelle que dans les années 74, on a eu un gros scandale qui était le scandale Safari. Et pourquoi le scandale Safari ? Parce qu'on envisageait de mettre en place un grand fichier qui utiliserait le NIR, le numéro d'immatriculation au répertoire des personnes physiques. Donc le numéro qui permettrait de tout regrouper sous ce méga fichier, gigantesque fichier. Dans les années qui ont suivi, on a parlé de séparation des fichiers, on a parlé des fichiers de police d'un côté, des fichiers de l'administration de l'autre, etc., d'étanchéité. Mais il y a eu les différents problèmes liés aux événements du 11 septembre. On s'est mis à développer des tas de fichiers. Puis plus il y a de fichiers, plus il y a des trucs intéressants dans les fichiers. Et donc plus on a envie d'aller voir ce qu'il peut y avoir dans les fichiers, et puis on sait ce que c'est que l'interconnexion, on sait ce que c'est que l'interopérabilité, et donc, se développent des zones grises. Des zones dans lesquelles l'administration peut aller voir dans certains fichiers de police. Le STIC, par exemple. On se dit, tiens, on envisage de recruter tel bonhomme pour telle fonction, est-ce qu'il n'est pas dans le STIC ? C'est le fichier des infractions constatées. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du STIC parce que il y aurait plein de choses. Il faudrait mettre un trépied. Je vais le tenir avec mon menton et ma barbe. Sur toutes les bêtises qui sont liées au STIC et au caractère non à jour du STIC, etc. Mais inversement, les fichiers de police qui se sont développés de façon ahurissante, le dernier rapport bateau à l'Assemblée nationale, on a trouvé 80 et quelques, dont 40 étaient absolument inconnus. On les a trouvés, on leur en avait même pas parlé d'ailleurs. Ils faisaient leur enquête en tant que députés, deux députés qui se baladent en disant « Vous avez des fichiers de police ?» Non. Bon, et on en trouve 40 en rabat. Bon. Qui n'étaient ni déclarés à la CNIL, qui n'avaient aucun rapport avec la CNIL, qui étaient parfaitement illégaux. Mais ce qu'on a fait, on a dit « Bon, on va les légaliser. » Donc, on peut avoir des inquiétudes. Je résume encore 25 pages. On continue le paradoxe. Il faut quand même que je dise ça. Je vous ai parlé de Safari, le NIR. Le NIR, on continue à l'exploiter depuis un moment dans le cadre fiscal pour lutter contre la fraude et contre les vilains profiteurs, tricheurs et tout. Mais on a du neuf. On a un deuxième utilisation du NIR avec le RNCPS. C'est le registre national commun des prestations sociales. Figurez-vous qu'il y a des tas de gens, des vilains, là encore, qui exploitent la sécurité sociale ou autre. Et derrière ça, avec le numéro unique, on interconnecte des dizaines de fichiers, des dizaines d'informations. Et on n'a pas de scandale, alors qu'on en avait un au départ. Le comble du comble, par rapport à l'histoire d'origine, c'est qu'on vient d'inventer ce que dans Astérix et les Normands on appelle la crème à la crème, l'idéal total, le fichier des honnêtes gens. C'est quand même fabuleux. On imagine un fichier qui, heureusement, a été désingué par le Conseil constitutionnel. Il en a fichu en l'air, je crois, il a fichu en l'air 7 ou 8 articles sur 12, dans lequel on voyait effectivement la possibilité d'avoir sur un même fichier les données biométriques, les données personnelles. Ça faisait une belle sauce. Ça a raté. Guéant s'en va, on laisse quand même derrière le fichier des analyses sérielles, je vous en dirai un mot, qui prévoit d'interconnecter des tas de trucs. Or, les médiologues, vous savez, les gens qui parlent à la télévision mais qui ne connaissent pas ce dont ils parlent, ces gens-là nous disent qu'on lutte contre. Non, c'est pas possible. On lutte contre la constitution du méga fichier. On s'en fout. Tout le monde s'en fout du méga fichier. Ça n'a aucune importance, le méga fichier. Pourquoi ? Parce que depuis 1999, on a inventé le Google de la police, qui s'appelle Kéops. On ne sait même plus comment ça s'appelle, Kéops, vous ne savez pas. Il va changer de nom, il va s'appeler Passage. Bon. Et Kéops, eh bien, c'est Google. C'est le fait de dire, je tape le nom de tel ou tel bonhomme, et il me sort tout. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les petits dessins qui étaient faits dans le petit bouquin « Le projet Carsenac ». Tous les étudiants l'ont copié et pompé 10 fois. Vous voyez l'administration en silo, on vous dit, puis après on passe à l'administration en réseau, et puis on voit un petit bonhomme qui, en passant par son compte e-administration, peut avoir accès à tout ce qu'il y a dans les différents ministères. Et on dit, grâce à l'intranet général, eh bien, il peut aller partout. Très bien. On peut compléter, je mettrai le petit dessin là-dedans. On peut le compléter par le même dessin, mais en mettant en face du bonhomme un type avec une casquette qui, par la même voie, a accès aux mêmes données, aux mêmes fichiers. Donc le problème n'est pas un problème de méga fichiers. Le problème, c'est le problème des habilitations à consulter les fichiers. Et là, à ce niveau-là, celui qui doit avoir un rôle important, et qui doit de plus en plus avoir un rôle important, retrouver un rôle important, c'est le juge, et le juge indépendant. Il faut revenir, il faut venir hein, à ce système pour imposer ce type de mécanisme. Parce que c'est au niveau des habilitations à consulter ces fichiers que se produisent les bavures, les erreurs. On a l'exemple de l'affaire IKEA. Hein. Vous avez l'autre affaire Bartoli. Hein. Ce fonctionnaire qui allait consulter pour le compte des francs-maçons le STIC. Hein. Y a l'autre affaire de Johnny Hallyday, la dernière, je ne sais plus comment s'appelle le bonhomme, qui aussi a été exploité ce genre de système. Donc là, à ce niveau-là, il y a des fuites hein, partout. Et donc le problème doit être orienté à ce niveau-là. Alors il y a par ailleurs, et ça c'est une simple indication parce que là, mon carrosse va se transformer en citrouille si je dépasse l'heure. Je ne saurais trop insister sur la nécessité absolue, là encore, et intellectuelle fondamentale, de lire Mireille Delmas-Marty dans son ouvrage qui s'appelle « Sécurité et sûreté dans un monde dangereux ». Elle montre comment, à propos de l'exemple pénal, elle montre comment on est passé d'un système où, au lieu de poursuivre le délinquant, on en arrive, sous prétexte de protection et d'utilisation d'interprétations sémantiques bidons hein, des concepts et des termes, à une surveillance générale de la population. Et là, il y a un vrai problème. Sous prétexte de prévention, hein, on vous dit « oubliez de penser, on pense pour vous. Bon. On va vous protéger. » Et ce que constate Mireille Delmas-Marty, pour le pénal, on peut le trouver dans tous les autres mécanismes de prévention concernant, je dirais, l'administration ou les services publics en général. Hein. On vous dit, mais c'est pour vous, c'est pour lutter contre les vilains roumains qui, peut-être, exploitent quelque part un fichier, des prestations sociales qu'on fait ça, c'est pas pour vous. Et on va tenir le discours, de toute façon, ceux qui n'ont rien à cacher, vous connaissez le refrain. Ou ceux qui n'ont rien à cacher, n'ont pas à avoir peur de cette surveillance-là. Bon. Il y avait quelqu'un qui disait ça déjà en 1794, c'était Robespierre. Hein. Rappelez-vous de Robespierre en disant celui qui tremble, celui qui doute est déjà coupable. Bon. Donc là, il faut relire ce genre d'approche pour comprendre ce type de problématique. Mais vous verrez, j'ai écrit ça de manière absolument passionnante dans la publication que fera William Gilles. Et je vous prie malheureusement de m'excuser, mais j'ai dépassé mon temps d'au moins une minute.
Est-ce qu'il y a une possibilité de passer le temps d'une question que
Oui. Je pars.
Question à l'orateur. Voilà.
Dans le sens de la réflexion des libertés publiques. Ouais. Vous vous rappelez, dans les années 70, toutes les critiques qui avaient été faites par Galbraith et compagnie sur la technocratie, la façon dont les technocrates ont pris le pouvoir. Nous, dans notre métier, quand on monte le gouvernement électronique, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des informaticiens pour simplifier, et ceux qui sont responsables là, ce sont pas les informaticiens eux-mêmes, ce sont les politiques. Parce que les politiques, dès que ça touche à la technologie, ils ont peur. Ils disent, tu me fais un truc dans ce genre-là, et hop, ils le filent à l'informaticien. L'informaticien essaye de bien faire son métier, et il imagine, lui, d'utiliser tous les outils qu'il a à sa mesure, à ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, même sans parler de fichiers, on a des agrégateurs d'informations qu'on peut parfaitement brancher sur n'importe quoi. Amusez-vous un jour sur un agrégateur sur votre propre nom, vous serez très amusé de retrouver plein de choses. Donc le problème ici, c'est pas seulement, à mon avis, si je peux me permettre très humblement, de retrouver le contrôle du juge s'appuyant sur la loi sur la fonction SAB, mais également la resensibilisation des politiciens en leur rappelant les principes républicains. Ça a l'air débile comme phrase, ça a l'air tout bête, mais c'est de la culture juridique, de la culture d'éducation civique, qui fait qu'à un moment donné, le politicien doit se poser la question, ce que je fais, est-ce que c'est moral au sens tout simple? Parce que s'il passe tout de suite le bébé à l'informaticien, lui ne se posera pas la question. L'informaticien va essayer d'obtenir l'outil qui est le plus efficace en fonction des moyens qu'il a, et il va foncer. On revient à la discussion sur les technocrates des années 70, sauf qu'ils ont changé de côté.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs.
C'est un problème de liberté publique,
Tout repose sur un choix politique, choix fondamental. Et joue là-dedans ce qui complique encore les choses. C'est les options qui sont prises au niveau de l'État sur l'approche, je dirais une approche soit de type libéral, voire ultralibéral, soit une autre. Parce que tout ça fonctionne, je dirais, un peu comme des matrioshka. C'est-à-dire vous avez la conception politique générale. À l'intérieur, vous avez différents systèmes de mise en œuvre des règles. En dessous, vous avez les individus. Puis en dessous, vous avez les données personnelles. Donc tout ça est absolument lié. Je suis totalement d'accord. Bon, maintenant, je suis...
Oui,
je vais répondre en partant.
Non, mais je vais essayer d'être rapide, mais votre discours m'intéresse beaucoup. Mais il y a quand même un sujet qui m'interpelle un petit peu. C'est que j'ai trouvé votre discours quand même un petit peu sur le ton du réquisitoire anti-fichier, anti-j'irais utilité publique. Je trouve que vous avez assez peu développé la légitimité de son utilisation. Vous avez beaucoup développé, donc on peut regarder plein de choses, on peut interconnecter, Big Brother, vous avez cité cette expression-là. Je trouve que c'est un réquisitoire un petit peu à charge, et je trouve que vous oubliez un petit peu toute la valeur ajoutée de ce qui peut être lutte contre la fraude que vous avez citée, mais que vous avez pas tellement développé, que vous avez cité d'un mot, mais vous n'avez pas tellement développé cet aspect-là. Donc pourquoi est-ce que vous ne faites pas une mise en balance entre les inconvénients de l'accès à ce méga-fichier et les avantages qu'on peut en tirer, qui sont quand même très importants et qui ne sont pas valorisés dans votre discours?
Bon, alors, une chose est claire. Je n'ai pas la langue de bois. Je ne suis pas un partisan d'Hayek. Bon, c'est clair. D'un autre côté, je ne me situe pas à l'extrême gauche de Kropotkine. Il est évident. Il y a un écart. Il est évident que le problème se pose sur les données qui concernent la vie privée des gens. Bon. C'est pour ça que j'ai évoqué au départ le fait que je sois vraiment énervé contre l'espèce de discours sur la privacy by design. Et c'est pour ça que je suis partisan de la privacy by law. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de principes qui doivent être définis par la loi. Ceci dit, je prends un exemple tout à fait concret. J'ai raté mon train. Bon. Quand le gouvernement se met à vendre mes cartes grises, pour lesquelles j'ai payé pour avoir ma carte grise, et que le gouvernement se fait du fric sur ma carte grise que j'ai payée, pour que des marchands de soupe viennent m'emmerder chez moi en me disant « Dites, vous avez acheté une voiture, vous voulez pas avoir des pneus qui soient plus larges ou autres ?» Je considère qu'il y a une violation de ma vie privée, qu'il y a une utilisation illégitime de mes données, et je combats ce genre de choses. Si par contre, comme on l'a vu ce matin, il y a des problèmes d'itinéraire pour faire de la bicyclette ou pour acheter des carottes, je vois aucun inconvénient à le faire. Ça, c'est clair. Bon.
Donc, on est tout à fait d'accord sur l'exemple des cartes grises, mais c'est pour ça, sur l'exemple de la fraude, ça me paraissait devoir être développé pour montrer justement qu'il y avait une valeur ajoutée, que sans l'interconnexion, ça a été dit d'ailleurs au tout début.
Il ne faut pas que la fraude soit un prétexte. C'est pour ça que je dis.
C'est le but.
Il faut lire Delmas Marty entre le prétexte et le discours. On vous tient un discours pour vous dire, comme dans le livre de la jungle. « Sois tranquille, crois-en-moi, je veille sur toi, dit le serpent. » Bon, ceci dit, je vous laisse avec Walt Disney.